Deuxième partie. Houillon n'eut pas le loisir de poursuivre longtemps son enquête. Le 15 juillet, la guerre était déclarée entre la France et la Prusse. Les catastrophes se précipitèrent. L'Europe croula. Paris fut bloqué. Les Allemands pénétrèrent jusqu'au cœur de la France. Dès les premiers chocs sur la frontière, on en avait cruellement ressenti le contre-coup à Verval. Quelques jours après la bataille de Reichshofen, M. et Mme d'Utrich ramenaient chez eux leur fils Prosper, grièvement blessé dans la mêlée. Un soldat dévoué avait pu l'emporter à travers un déluge de mitraille. Aux époques tragiques, les caractères s'accentuent naturellement avec un singulier relief, comme sous l'influence de réactifs violents. Chacun, dans sa petite ville, fut surexcité par les désastres. Celui-ci levait au ciel des bras désespérés et 20 fois par jour déclarait « tout perdu ». Celui-là, sous une gravité, restait, gardait l'espoir et la vigueur, comme un arbre toujours vert sous la neige et le vent glacé. Totobus, pour qui son père avait à grand-peine trouvé un remplaçant payé au poids de l'or, ne songeait plus, oh plus du tout, à la bagatelle. Tremblant la peur, il restait nuit et jour terré chez lui comme un lièvre au gîte. Tous les hommes valides étaient partis. André John, ancien soldat, avait été rappelé sous les drapeaux. Un soir, par un ciel étoilé dans les charmilles du jardin, il fit ses adieux à Lucille. Elle ne put, entre sa mère et lui, se défendre de pleurer. « André, lui dit-elle à travers ses larmes, en lui donnant un petit nécessaire arrangé par elle, et où elle avait glissé son portrait, « André, faites votre devoir, tout votre devoir. Autrement, nous ne serions pas dignes d'être heureux. Mais pensez un peu à moi, qui penserai toujours à vous. » Rouillon, âgé de 37 ans, n'avait pas été atteint par la loi de recrutement. Il s'était promis d'ailleurs, puisqu'il était adjoint au maire, d'en profiter pour ne se laisser imposer d'aucune façon le service militaire. Il n'avait pas plus renoncé aux affaires qu'à la conquête de Lucille. Sa passion par Mademoiselle Fraisier, si profonde qu'elle fût, avait laissé intact son instinct commercial. Ayant flairé les événements longtemps à l'avance et prévu une hausse énorme sur les cuirs, il avait fait des achats de tous les côtés avant la déclaration de guerre et maintenant il réalisait de superbes bénéfices. Cela l'occupait, lui fournissait une diversion utile, mais n'apaisait point sa méchante humeur. La proclamation de la République le rendit furieux. Cette guerre qu'on voulait continuer malgré tout lui semblait inepte et désolante. Il n'y avait plus d'armée. Comment résister aux innombrables envahisseurs? Pourrait-on les empêcher de mettre toute la France au pillage? Bientôt, il serait à Verval. Et alors, quel gâchis! Plus de sécurité pour les gens ni pour les biens. Ah, comme il rabrouait les exaltés, comme il se gênait peu pour les traiter publiquement de fous, et comme il rabattait le craquet démocratique de Constant Fraisier qui prêchait la lutte à outrance. L'ennemi, cependant, gagnait chaque jour du terrain. Le 2 octobre, Verval eut une première alerte. Les troupes allemandes apparurent au loin dans la plaine par grandes masses noires. Et l'on vit les Uhlans chevaucher de l'autre côté de l'eau. Mais on avait fait sauter le pont et ce jour-là, ils durent se borner à une promenade platonique. Le surlendemain, un détachement d'infanterie occupa le hameau de Saint-Maxin, à droite de la Sorelle. Deux hommes, d'abord, traversèrent la rivière sur un arbre creux et reconnurent l'endroit. Puis ils firent un radeau sur lequel passèrent une quarantaine de soldats, et cette avant-garde s'établit dans une ferme à l'angle formé par le confluent de la Sorelle et de l'Orle, afin de rétablir le pont, tant bien que mal, au plus vite. Personne ne bougeait dans le bourg. Nul ne songeait à la défense, et les voitures où l'on avait entassé les armes de la garde nationale étaient déjà parties. Une compagnie de francs-tireurs les ramena. Le capitaine s'installa à la mairie, convoqua les autorités, déclara qu'il fallait résister et débusquer les Allemands de leur poste avancé. Il fit appel aux hommes de bonne volonté, distribua les fusils. Vainement, le maire et quelques conseillers municipaux protestèrent de tout leur pouvoir. Vainement se démena François Rouillon, qui, sachant la méthode des Prussiens, redoutait les conséquences d'une pareille équipée. « Les voilà bien !» criait-il, « ces bandits de francs-tireurs. Ils sacrifient tout parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ruineraient 20 départements pour faire parler d'eux. » Les trembleurs eurent beau dire. Ils ne purent obtenir qu'on se tint tranquille. On attaqua au milieu de la nuit. L'ennemi, surpris, eut plusieurs hommes tués ou blessés et se retira précipitamment sur la rive droite, abandonnant ses travaux qui furent anéantis. L'enthousiasme causé par ce succès dura peu. On apprit la capitulation de Neuville-le-Fort. Les francs-tireurs gagnèrent les bois à la hâte et bientôt un corps d'armée allemand, arrivant par la rive gauche de l'Orle, ouvrit sur Verval un bombardement préliminaire qui fit crouler le clocher et alluma plusieurs incendies. Puis des cavaliers verts et rouges aux casques à chenilles prirent possession de la place. Et comme Rouillon remontait de la cave où il s'était réfugié, il s'entendit appeler de la rue. Il s'avança sur le seuil et vit trois cavaliers ennemis arrêtés devant sa maison. « Me reconnaissez-vous ? » lui dit l'un d'eux en riant. « Hé, hé, j'ai travaillé ici pour le roi de Prusse. » En effet, sous l'uniforme des chevaux légers bavarois, Rouillon reconnut un ancien employé du chemin de fer, Karl Stein, qui avait passé plusieurs années dans le pays. « Marche !» lui cria cet homme, changeant subitement de façon. « Tu seras notre otage, c'est la guerre !» Il lui mit le pistolet sur la tempe, et les deux autres cavaliers, l'empoignant chacun par un bras, l'entraînèrent au trot de leur monture. L'infanterie allemande s'était cantonnée hors du bourg. Le chef avait établi son quartier général chez les Dufrich, à la Villa des Roses. C'est là que fut mené Rouillon. On le poussa, les mains liées, dans la salle à manger, où plusieurs officiers étaient attablés autour d'un déjeuner copieux. Une femme les servait, Madeleine Cibre. « Elle m'aura dénoncé !» pensa-t-il, en fixant sur elle un regard haineux. Le plus âgé des officiers, celui qui paraissait le chef, se retourna à demi pour considérer le prisonnier. « Qui êtes-vous » lui dit-il. « François Rouillon. »« Oh, vous êtes adjoint au maire, vous êtes un des plus riches contribuables. » Votre devoir était de prévenir des actes de rébellion et de brigandage commis contre nous l'autre nuit, dans votre commune. Vous en serez personnellement responsable si les coupables ne sont pas livrés. Mais les coupables, mais ce sont les francs-tireurs, ils ont quitté Verval. Je ne puis vous en livrer un seul, moi. Vous dites tous la même chose ici. Vous êtes entendus pour nous tromper. Vous mentez comme le maire et les deux notables que je viens de faire enfermer dans le pavillon du jardin. Vos francs-tireurs, nous avons pas vu. Ce sont les habitants qui ont tiré sur nous. D'ailleurs, quels que fussent les rebelles, il fallait les empêcher d'agir. Ah, mais j'ai bien fait tout ce que j'ai pu pour cela, je vous le jure. Toujours le même système. Mais je ne veux pas qu'on se moque de nous. Il importe que paysans et bourgeois perdent tout espoir de nous résister impunément. Nous avons eu 3 hommes morts de combat. Si vous persistez tous dans votre silence, 3 d'entre eux sont exécutés. 3 autres iront en prison au-delà du Rhin. 20 maisons seront brûlées. Allez, je vous accorde un quart d'heure pour réfléchir. Allez! On emmenait déjà Rouillon. Mais il avait beaucoup réfléchi en quelques minutes. Mon commandant, dit-il à voix basse, après s'être assuré d'un coup d'œil que Madeleine n'était plus là, ne pourrais-je vous parler un moment en particulier? Pourquoi? Pour ne pas être entendu par tout le monde. Soit, passez dans la pièce voisine, je vous y rejoindrai tout à l'heure. Le chef fit un signe aux soldats, leur adressa quelques mots en allemand, et Rouillon fut conduit dans un salon attenant à la salle à manger. On l'y laissa seul en attendant la fin du repas. Il put y poursuivre tranquillement ses réflexions. Il n'entendait pas le moins du monde payer de sa vie ou simplement de sa fortune et de sa liberté l'absurde agression des engagés qui avaient agi malgré ses remontrances. N'était-il pas innocent? À tout prix, il fallait se tirer de cette mésaventure. Mais comment? Eh bien, en détournant l'orage sur d'autres que lui. Chacun pour soi, on se défend comme on peut. Alors, qui sacrifier? Bon, n'importe qui. Pourtant, il fallait faire un choix, donner des noms. Et cela méritait quelque attention. Il baissa la tête et songea. Quand il releva le front, une ironie sinistre luisait dans ses yeux. Ce qu'il cherchait, il l'avait trouvé. Le commandant parut, suivi d'un jeune officier. La porte refermée, il se jeta sur le canapé, le cigare aux dents, et fit signe aux prisonniers qu'il l'écoutait. Je n'ai pas menti, commença Houillon d'une voix ferme. Les francs-tireurs ont fait le coup. Toutefois, la commune n'est pas complètement innocente. En cela, vous avez raison. Expliquez-vous. Le maire et les gens sensés se sont hautement opposés à tout fait de guerre. J'ai dit moi-même au capitaine des francs-tireurs que c'était une lâcheté de compromettre pour rien une ville ouverte. Mais ils cherchaient sans doute qu'une occasion de se mettre en évidence, et les forcenés l'acclamaient. Que pouvions-nous faire? Protester et partir. Nous sommes donc rentrés chez nous et nous n'avons pas vu ceux des habitants qui ont fait partie de l'expédition. Mais je puis à coup sûr vous en désigner 3, parce que ces 3-là se sont vantés de leurs exploits. Nommez-les, Victor Boussemont, le fils de l'huissier, Jean Savourny, l'instituteur, et Prosper Dufriche. Comment? Le maître de cette maison où nous sommes? Non, 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 son fils. Son fils, mais n'avait-il pas été blessé au commencement de la guerre à Worth? Il garde encore la chambre, nous a-t-on dit, et c'est à peine s'il peut marcher. Oh, il n'est pas aussi faible qu'on le prétend. Il s'est fait conduire jusqu'au bord de la rivière. C'est lui qui, avec le capitaine, a tout dirigé. Vous en êtes certain? Je vous l'affirme. Bien, on s'assurera de lui. Vous guiderez mes hommes pour qu'ils arrêtent les 2 autres. Oh non, je vous supplie de m'épargner cette démarche qui me compromettrait sans nécessité. Eh bien, désignez donc, d'une façon précise, les personnes et les domiciles. Wilhelm, délie-lui les mains et donnez-lui de quoi écrire. Le jeune officier arracha une feuille de son carnet. la posa sur le guéridon avec un gros crayon rouge et des liards houillons. Écrivez, dit-il à ce dernier, le commandant. Houillon hésitait. Soyez tranquille, ricana Wilhelm. Ne laissons pas traîner les pièces compromettantes. Cela nous engagera envers nous. Voilà tout. Aimez-vous bien quelques balles dans la tête? Ajouta le chef. Houillon vit qu'il fallait se résigner. Il prit le crayon et écrivit. Mouchement et Savourny demeurent-ils tous les deux du même côté? Il lui demanda le commandant lorsqu'il eut fini d'écrire. Non, 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 ils habitent aux deux extrémités de la ville. Wilhelm, afin d'aller plus vite, vous commanderez une escouade pour chacun d'eux. Transcrivez en allemand chaque indication sur une feuille séparée. Vous garderez l'original comme justification. Puis, se tournant vers Houillon, vous êtes libre, partez. Et comme Houillon s'en allait, mais j'y pense, Wilhelm. Donnez-lui un sauf-conduit. Il se peut qu'il ait besoin de nous, comme il se peut nous ayons besoin de lui. Il n'y avait point 10 minutes que Houillon était parti, et les deux escouades venaient à peine de s'éloigner avec les indications transcrites, quand, à 300 pas environ de la Villa des Roses, une vive fusillade éclata dans la campagne. Le chef allemand se dressa au bruit, jeta son cigare, ouvrit précipitamment la fenêtre. Wilhelm courut aux nouvelles. La note écrite par Houillon était restée sur le guéridon. Un courant d'air l'enleva et, par la porte béante, l'emporta dans la salle à manger, où Madeleine, demeurée seule, desservait. Elle ramassa instinctivement ce bout de papier, y jeta les yeux, fut stupéfaite d'y reconnaître une écriture qui lui avait été familière, entendit les pas des officiers qui rentraient, cacha la feuille dans son corsage et regagna vite la cuisine. La fusillade s'éteignait au loin. L'alerte avait été brève mais sérieuse. Les francs-tireurs avaient eu l'audience, l'audace de revenir par le fourré jusqu'à la lisière du bois. De là, à leur aise, ils avaient abattu d'un seul coup une 20aine d'hommes sous leurs balles. Maintenant, ils se dérobaient sans qu'on pût les poursuivre utilement. On dut se contenter d'envoyer au hasard quelques volées de mitraille dans la forêt. Ce retour offensif déchaîna la fureur des Allemands. Le premier moment d'alarme passé, ils commencèrent le pillage et l'incendie avec une décision impitoyable, avec une sauvagerie savante. Tous les habitants ne se laissèrent pas dévaliser sans résistance. Il y eut des protestations, des rixes qui redoublèrent l'acharnement des pillards. Quiconque résistait était lié et cruellement battu. Un perruquier de 60 ans, vieux soldat d'Afrique, renversa sur le pavé un sous-officier qui avait vidé sa caisse et voulait lui arracher sa montre. On fit le siège de la boutique. Le vieux se défendit avec une énergie désespérée. Il assomma 2 des assaillants. À la fin, il succomba. Criblé de coups, lardé par les baïonnettes, il fut pris, traîné, foulé aux pieds dans le ruisseau sanglant. Avec ses rasoirs, on lui coupa le nez, les oreilles, les poignets. Puis on lui creva les yeux et on le jeta, mort ou moribond, dans les ruines de sa pauvre bicoque, au milieu des flammes. Victor Boussemont et l'instituteur avaient été conduits à la Villa des Roses. Monsieur Dufriche les vit arriver et demanda au commandant ce qu'on leur reprochait. « Faites descendre votre fils, » lui dit celui-ci pour toute réponse. « Mon fils, mais vous savez bien qu'il ne peut pas bouger. Il se soutient à peine sur ses béquilles. Qu'il vienne immédiatement, on ira le chercher. » Prosper descendit, aidé par son père. L'autre nuit, vous avez soulevé contre nous les gens de Merval. Vous avez dirigé l'attaque du pont. Moi, est-ce possible? Vous voyez dans quel état je suis. Je n'ai pas quitté la maison une minute. Vous ne pouvez guère marcher, c'est vrai, mais on vous a conduit. Et qui vous a dit ça? Je n'ai pas de compte à vous rendre, mes renseignements sont sûrs. Je vous jure qu'on vous a trompé. Prenez vos dernières dispositions. Vous serez fusillé avec ces deux hommes qui sont coupables comme vous. Fusillé ? S'écrièrent avec stupeur Savourny et Moussemont. Silence ! Pitié ! Fit Madame Dufriche, se jetant tout en pleurs aux pieds du commandant. Mon fils n'a rien fait, ne le tuez pas. Il l'écarta avec impatience. La loi militaire est dure, je le regrette pour vous, madame, mais il faut des exemples. La France vous a déclaré la guerre et ne veut pas accepter la paix, que les Français en subissent toutes les conséquences. Mais monsieur, monsieur, je n'ai pas touché un fusil de ma vie, dit alors Totomousse, affolé de terreur, avec des gestes de petit enfant qui supplie. J'ai toujours été pacifique, très pacifique, moi. Tout le monde le sait, informez-vous. Je me suis fait remplacer pour ne pas me battre. J'aime les Allemands, mon général. Ce n'est pas moi qu'on doit punir, c'est injuste, qu'on me laisse libre. Papa vous donnera tout ce que vous voudrez. Mais je ne veux rien de vous. Mais qu'on nous juge au moins, fit Savourny. Il en put dire davantage, les soldats poussèrent les trois condamnés vers la porte. Madame Dufriche s'attachait aux vêtements de son fils, qui interdit, stupéfait, s'avançait péniblement. « Arrêtez !» cria Madeleine, qui venait d'entrer. « Qu'on enferme les femmes !» dit le chef. Madame Dufriche perdit connaissance. Madeleine résista, mais fut entraînée et enfermée dans le cellier. L'exécution eut lieu en haut de la côte, parmi les acacias nains d'une sablonnière abandonnée. Victor Moussemont, qui pendant tout le trajet n'avait cessé de parler, d'expliquer, d'implorer, eut un accès de colère folle quand il se vit perdu sans secours. « Imbécile que je suis !» hurlait le pauvre Toto. « Mais dire que j'ai payé un homme pour partir à ma place, et dire que cet homme n'attrapera peut-être pas une égratignure, tandis qu'on va me tuer comme un chien !» Il se débattit violemment, voulut s'échapper, il mordit les soldats qui le frappèrent alors à coups de crosse, à coups de sabre, puis crachèrent la figure et l'attachèrent contre un arbre en vociférant. Caput, caput! Et l'un d'eux, parodiant la Marseillaise, se mit à chanter devant lui. Le sang impur, abreuve vos sillons, tas de cochons! Ma pauvre mère, murmurait Prosper Dufriche et Savourny, ma pauvre enfant! Pénétrés du même sentiment, ils ajoutèrent presque ensemble: pauvre France! Ils durent creuser eux-mêmes leur fosse. Pendant ce temps, l'officier qui commandait le peloton lisait tout haut en latin, dans un bréviaire qu'il avait tiré de sa poche, les prières des agonisants. « Voyez-vous en Dieu ?» dit Prosper à l'instituteur. « Espérons, » dit celui-ci, les yeux levés vers le ciel. « Il est impossible que la fin suprême ne soit pas justice et amour. » Après l'exécution, les soldats tirèrent au sort les vêtements des morts. Ils avaient amené là quelques bourgeois prisonniers qui voulaient terrifier par le spectacle de cette tuerie. Ils les forcèrent à enterrer les cadavres et à piétiner par-dessus pour niveler le sol. Le lendemain, les Allemands quittèrent le pays. Ils emmenaient le maire et deux notables, la corde au cou, avec menace de les fusiller net si la colonne était inquiétée en traversant les bois. Plus de 30 habitations avaient été incendiées. 11 personnes avaient succombé, entre autres le vieux Moussemont, l'huissier, le père de Victor. On le retrouva à moitié carbonisé près de son coffre-fort. En partant, l'ennemi tenta de brûler la maison Jaure, d'abord épargnée parce qu'une ambulance y avait été installée. Mais le feu fut éteint sans dégâts considérables. La maison Fraisier avait été sauvée par un singulier hasard. Un chirurgien allemand, le brassard sur la manche, un flacon de pétrole dans la main gauche, un long pinceau dans la main droite, badigeonnait déjà les rayons du magasin lorsque Constant Fraisier reconnut ce pétroleur pour un camarade de la 20e année qui, étudiant en médecine, avait logé à Paris pendant quelques mois sur le même palier que lui. En souvenir de l'ancien temps, l'homme au pinceau daigna à protéger la famille et les biens de son ci-devant voisin. Mais Lucile, brisée déjà par le départ d'André, fut dans cette affreuse journée assaillie de telles angoisses qu'elle en tomba gravement malade. Rouillon venait chaque matin prendre de ses nouvelles. Cette maladie le troublait, l'inquiétait au suprême degré. Il avait peu de remords d'ailleurs, n'ayant tué personne de sa main, et se croyant à l'abri de tout soupçon. Et puis, n'avait-il pas fallu sacrifier 3 hommes, autant cela que d'autres? C'était un cas de légitime défense. Il montrait en outre une activité étourdissante. Il faisait fonction de maire, et ce n'était pas une sinécure alors, Verval ayant cessé à héberger les détachements ennemis qui s'y succédaient régulièrement. Les chefs descendaient chez Rouillon. Ils s'appliquaient à les satisfaire. Il admirait leur correction, leur politesse et même, disait-il, leur sensibilité. Il s'extasiait sur la discipline de leurs soldats. Oh, ils ne ressemblaient guère à ces chenapans de francs-tireurs. Il réussit à préserver la commune des réquisitions les plus onéreuses. Par son entreprise, à 10 lieues à la ronde, les fermiers vendaient leur bétail aux Allemands et le vendaient à bon prix. Lui, il rachetait pour presque rien les peaux des bestiaux abattus. Il gagna ainsi de fort jolies sommes et devint très populaire. N'avait-il pas eu 100 fois raison de protester contre cette folle attaque du pont, si funeste à la petite ville? N'était-il pas devenu la providence du pays? Tout le monde en profitait. Et l'ennemi, quand on le laissait tranquille, était bon enfant. On passait devant les ruines des maisons brûlées, sans plus y faire attention, et personne n'avait le loisir de songer aux morts. À l'inquiétude que lui causait la maladie de Lucile, Rouillon sentait parfois se mêler une obscure et farouche satisfaction. Si la jeune fille avait été profondément affectée, c'est que l'homme aimé par elle avait été atteint. Le rival heureux n'existait plus. À certains moments, Rouillon en avait des accès de joie féroce et comme un redoublement de vitalité. Il ne faisait plus mystère de son amour, bien au contraire. Il affichait, sans réserve, prenant soin de compromettre Lucile par ses assiduités. Cependant, l'état de la malade empirait. Allait-elle donc succomber? Mais alors ce serait lui, Rouillon, qui, par la mort du bien-aimé, l'aurait tué, elle. Cette idée, maintenant, le persécutait. Il en perdit l'appétit et le sommeil. Il fit venir de Neuville un médecin renommé. La jeune fille, que sa mère soignait admirablement, eut enfin une crise salutaire. Elle se trouva hors de danger. La convalescence fut longue et Lucile était encore bien frêle, bien pâle, pendant ce splendide mois de mai dont le radieux soleil illumina de si tristes choses. Son rétablissement ne fut complet que le jour où l'on sut des nouvelles d'André. Il écrivait du fond de l'Allemagne. Il était là, prisonnier. Là, il avait été presque en même temps que Lucile entre la vie et la mort. Une fièvre typhoïde avait failli l'emporter. Il se sentait assez bien maintenant et il annonçait son prochain retour. Au commencement de juillet, un an juste après la première démarche, Rouillon reparla du mariage à Constant Frésier. Celui-ci répondit évasivement. Ses affaires allaient mal. Il était fort embarrassé entre ce créancier tout-puissant et Lucile qui, soutenue par sa mère, faisait la sourde oreille aux représentations les plus sages, aux supplications les plus pathétiques. Il louvoya tant qu'il put. Enfin, la situation n'étant plus tenable, il provoqua une explication directe avec Rouillon. Celui-ci ne manqua ni d'aplomb ni d'adresse. Lucile, qui ne voulait pas rompre avant le déretour d'André, d'abord éluda la question, se plaignit d'être encore faible et souffrante. Il insista, affirmant avec autorité qu'elle était plus forte et plus belle que jamais. Froissé par ces compliments agressifs, offensé par cette insistance impérieuse, elle fut prise d'une irritation fébrile, ne put se contenir plus longtemps et déclara que présentement elle n'avait aucun goût pour le mariage, salua et sortit. Rouillon revint chez lui exaspéré. Il résolut d'employer les grands moyens. Il déchaîna les hommes de loi, démasqua toutes ses batteries. Frésier perdit espoir. Lucile restait de son côté aussi intraitable que Rouillon du sien. Elle attendait André avec impatience. Un matin, Frésier voulut faire une dernière tentative auprès de Rouillon. « Le pape peut lui parler, » dit-il en rentrant au magasin. « Il ira jusqu'au bout. Il nous fera grâce de rien. »« Mais dois-je me vendre à cet homme ?» répliqua Lucile avec énergie. « Si nous en sommes là, est-ce ma faute ?» Mais subitement, elle se dressa, transfigurée et radieuse. « André, André !» s'écria-t-elle. Et emportée par un irrésistible élan, elle se jeta dans les bras du jeune homme qui venait d'apparaître sur le seuil. « Oui, père, » reprit-elle après la première effusion, « oui, c'est lui que j'aime. Il nous défendra, il nous sauvera, j'en suis sûr. Oh, je ne crains plus rien maintenant. Mais regardez donc, il a la croix, il a l'uniforme d'officier. Oh, que je suis heureuse !» Il ne nous en avait rien dit dans sa lettre, l'égoïste. Il voulait voir notre surprise. Vite, il faut nous mettre au courant. André dut raconter tout au long, puis répéter encore la suite accidentée de ses aventures militaires. Après Sedan, après les tortures subies au funèbre campement de la presqu'île d'Ige, il avait pu s'échapper, gagner la Belgique, et revenu en France, incorporé à l'armée du Nord, il avait pris part aux batailles de Villers-Bretonneux et de Pont-Noyel au combat d'Achères-le-Grand. Il avait été décoré et promu sous-lieutenant le 3 janvier après la victoire de Bapaume. Blessé au front et à l'épaule droite devant Saint-Quentin, Il était retombé entre les mains de l'ennemi et il avait été interné dans la Prusse orientale. À son tour, il voulut savoir tout ce qui s'était passé à Verva dans son absence. « Vous tranquillisez-vous, » dit-il à Fraisier en apprenant les dernières manœuvres de Houillon. « Lucile a raison de ne plus rien craindre. D'après ce que m'a montré ma mère, nous avons une fortune à présent et je pourrai bientôt désintéresser cet homme. »« Oui, c'est la vérité, » ajouta Madame Jor, qui avait accompagné son fils. « Le notaire est venu en personne hier soir à la maison. » pour m'annoncer que toutes les informations prises, nous héritons des Moussemont. Ce malheureux Victor a été fusillé sur la côte, tandis que son père succombait dans l'incendie. Nous sommes les plus proches et, je crois, les seuls parents qui leur survivent. Mais ne perdons pas une minute, reprit André. Monsieur Fraisier, accompagnez-moi chez Rouillon. Nous ne reviendrons pas sans l'avoir vu. Je lui donnerai ma parole et au besoin ma signature. Il faut que ces poursuites cessent immédiatement. Ils rencontrèrent Houillon devant sa porte. Il rentrait chez lui. Il ne put décliner leur visite et les introduit dans son bureau. André lui soumit l'état de la situation dressée pour Madame Jor par le notaire, et s'offrit comme caution de Fraisier. « Mais Fraisier ne pourra jamais vous rembourser !» fit Rouillon, étonné au point d'en oublier ses intérêts pécuniaires. « Il est insolvable. Pourquoi le garantissez-vous »« J'espère être bientôt de sa famille. »« Vous, mais comment ?»« Mais depuis longtemps, mademoiselle Lucile et moi, nous nous aimons. » Houillon devint livide. Un moment, il resta étourdi du coup. « Mais c'est pas possible !» dit-il enfin d'une voix rauque, les yeux braqués sur le jeune homme avec une expression farouche de stupeur et de haine. « Fraisier, est-ce vrai ?» Fraisier hocha la tête sans répondre, et le regard oblique tournait son chapeau de paille entre ses mains. « Mais vous m'avez indignement trompé !» s'écria Rouillon. Il s'était levé, le visage menaçant. Fraisier recula. André allait s'interposer quand la porte s'ouvrit. Un brigadier de gendarmerie parut. « Monsieur Rouillon, » dit le brigadier, « j'ai le regret de vous déclarer que je vous arrête au nom de la loi. Voici le mandat, veuillez me suivre. » Houillon semblait ne pas comprendre. Avait-il bien entendu arrêter, lui ? Mais pourquoi ? Le brigadier tendait le papier. Il lut. C'était bien contre lui, François Houillon, qu'était décerné le mandat. « Vous êtes prévenu, paraît-il, d'avoir eu des intelligences avec l'ennemi ?» et d'avoir fait fusiller 3 personnes. Houillon chancela, hagard, accablé. Il avait revu tout d'un coup, avec une effroyable intensité, la scène de la Villa des Roses, là, devant lui, sur le guéridon du salon. Elle luisait comme du feu, la liste des 3 noms, la liste rouge. Et il croyait tenir encore ce crayon qui lui brûlait les doigts. Il entendait les voix, les cris, les pas. Madame Dutriche suppliante, Madeleine entraînée brutalement. Puis sur la route, Victor Moussemont répétant aux soldats « Mais je n'ai pas touché un fusil, j'aime les Allemands, c'est injuste !» Ainsi, cette abominable dénonciation, ce triple meurtre aboutissait à quoi ? Au mariage de Lucile avec André Georges, qu'elle aimait, avec André enrichi par son crime, à lui Rouillon, par le crime qui maintenant, comme un monstre mal dompté, se retournait contre le criminel pour le mordre au cœur. Il se sentait défaillir. Alors un violent effort, il reprit possession de ses facultés. Était-il encore donc perdu sans rémission? Avait-on des preuves? C'était invraisemblable. Pourquoi les Prussiens auraient-ils témoigné contre lui? Ces réflexions rapides lui rendirent un peu de calme. Dès que je serai libre, dit-il à Fraisier, nous reparlerons de votre affaire. Excusez-moi, il faut que j'aille voir ce qu'on me veut. Je n'y comprends rien. Puis, s'adressant au brigadier, je vous suis, mon brave, il doit y avoir méprise. Oh, tout sera vite éclairci. L'épreuve que Rouillon croyait impossible à produire était acquise contre lui. Tant que l'ennemi avait occupé Verval, tant que la tranquillité n'avait pas été complètement rétablie, Madeleine Cibre avait gardé son secret. Elle ne se décida pas, sans trouble et sans déchirement, à perdre le misérable qu'un moment elle avait aimé. Mais chaque jour, à toute heure, elle voyait la navrante douleur des braves gens qu'il avait recueillis, sauvés, et dont le fils unique avait été victime d'une si odieuse lâcheté. Un jour, elle ne put se contenir et dit tout à M. Dufriche. Elle lui remit la pièce décisive et la justice fut saisie. Devant le conseil de guerre, François Rouillon eut d'abord une attitude hautaine. Il comptait sur les nombreuses personnes à qui, pendant l'invasion, il avait procuré des affaires si lucratives. Est-ce que tout le monde, sauf les enragés, ne professait pas la plus grande estime pour lui à Verval? Certes, oh, les témoins à décharge ne lui manqueraient point. Néant que tout cela, de la fosse où il la croyait à jamais ensevelie, la vérité se dressa irrésistible. Madeleine, lorsqu'il lui reprochait de le calomnier par vengeance personnelle, l'accabla sans pitié. Monsieur et Madame Dufriche firent sur les juges une impression profonde. Maintes circonstances vinrent corroborer l'accusation. Enfin, un incident décisif dissipa les derniers doutes. Une enfant de 10 ans, la fille du jardinier de la Villa des Roses, surprise par l'arrivée des Allemands, s'était réfugiée dans le salon où, blottie derrière un rideau, elle avait assisté à toute la scène de dénonciation qu'elle évoqua avec une ingénuité terrible. Quand elle eut terminé, Rouillon se leva de son banc. La rumeur qui remplissait la salle s'apaisa. Il se fit un silence solennel. C'est vrai, dit-il, je suis un misérable. Pardonnez-moi et qu'on en finisse au plus tôt. J'aimais une femme qui ne m'aimait pas. J'étais jaloux, je n'ai pu résister à la tentation de perdre ce que ma jalousie soupçonnait. Oui, crime absurde et inutile. Mon rival heureux a survécu. Bientôt, il épousera celle pour qui je vais mourir. Voilà mon châtiment, le vrai, le seul. Il est juste. Mais je ne suis pas un traître. Je n'ai rien tramé contre la patrie. Je voudrais n'avoir jamais vécu. Condamné à mort, il refusa de se pourvoir en grâce. Quant aux premières pâleurs de l'aube, on lui annonça que l'heure suprême était venue. Il prononça ce seul mot: Enfin! Je me repens, dit-il à l'aumônier, et mon repentir est profond, absolu, résigné. Je ne saurais offrir autre chose au bon Dieu, s'il y a un bon Dieu, ce qui me paraît invraisemblable. N'insistez pas, mais vous pouvez me rendre un service. Voudrez-vous remettre vous-même ce billet à Mademoiselle Fraisier? Il est ouvert, je vous prie de le lire. Vous verrez que rien n'y est compromettant pour vous ni pour elle. La lettre était ainsi conçue. J'aurais voulu vous revoir, Mademoiselle Lucille, et vous supplier, non pas de me pardonner, mais d'avoir quelque pitié pour moi. Ce qui me désespère, c'est l'exécrable souvenir que je vous laisse. Certes, je suis châtié justement, et pourtant, aimé par vous, j'aurais été un honnête homme. Tout le mal vient de ce que vous n'avez pu m'aimer. Ce n'était pas votre faute, je le sais. Ce n'était pas non plus la mienne. Je vous pardonne ce que j'ai souffert, ce que je souffre encore à cause de vous. Jamais vous ne serez aussi heureuse que je suis malheureux. Je n'ai que des parents éloignés. Entre eux et moi, aucun lien, aucune affection. Je vous lègue toute ma fortune, acceptez-la pour secourir ceux auxquels j'ai nui, pour réparer autant que possible le mal que j'ai fait. C'est un devoir pour vous. Tâchez de m'oublier. Adieu. Il faisait déjà grand jour. Ouyo monta avec l'aumônier dans une voiture du train des équipages militaires. Il en descendit sans faiblesse, et d'un pas ferme, il alla se placer devant le poteau, préparé au pied d'une des buttes du polygone. Il ne voulut pas qu'on lui bandât les yeux. Pendant que l'officier d'administration, greffier du conseil de guerre, lui lisait son jugement, il ôta tranquillement sa jaquette et son gilet. La lecture finie, il embrassa l'aumônier et resta seul devant le peloton d'exécution. Alors, par cet instinct si profondément humain qui entraîne les moribonds à ressaisir et à résumer leur existence entière dans une manifestation suprême, il chercha une idée, un mot, un cri, où exhaler tout son être. Mille souvenirs s'éveillèrent en lui avec une promptitude et une acuité magique. Il se rappela, pour les avoir entendus cités, pour les avoir lus ça et là dans les journaux, dans les romans, ou même dans ses petits livres d'écoliers, les dernières paroles des condamnés célèbres. Mais pouvait-il crier comme eux « Vive le roi » ou « Vive la France, vive la République » « Vive l'humanité !» Non. Et il voulait pourtant crier quelque chose. Il le voulait obstinément, passionnément. Et dans son entêtement enfantin et tragique, il mettait à le vouloir tout ce qui lui restait de libre volonté. Il n'avait plus qu'une seconde. Il ne trouvait rien. Il vit l'officier donner le signal et, machinalement, alors avec une précipitation fébrile, il cria d'une voix folle, d'une voix tonnante « Vive la mort !»« Vive la mort !» Tel est le sobriquet funèbre sous lequel se perpétue à verbal la mémoire de François Houillon. Le petit voiturier qui récemment me contait cette histoire m'avait dit en guise de préambule: voulez-vous que je vous fasse connaître l'aventure de Vive la mort? Et en guise de conclusion, il ajouta: mieux vaut crier Vive la vie, n'est-ce pas, monsieur? Ce brave garçon n'avait pas subi la pire des invasions rudesques, celle de Schopenhauer, de Nietzsche et de Hartmann. La Revue du Nord, 1891-1892.